Voilà, donc on va passer à la deuxième séquence de cet après-midi, parce que quand j'ai évoqué le programme tout à l'heure, j'ai un petit peu mélangé les choses. On va parler autogestion pédagogique, alors voir si le terme est ancien ou pas, et on va avoir une grande tablée avec à la fois des enseignants des deux lycées, celui de Paris et celui de Saint-Nazaire, quelques élèves ou étudiants ou apprenants des deux lycées, et moi-même d'ailleurs, qui va introduire le sujet. Voilà, donc on se met en place, tous ceux qui sont supposés intervenir cet après-midi sur le débat autogestion pédagogique. Je vais faire une petite introduction brève, rassurez-vous. Ensuite, il y aura l'intervention des profs et lycéennes, d'une lycéenne, ou plusieurs d'ailleurs, de Saint-Nazaire, donc du lycée expérimental, il s'appelle pas autogéré, alors peut-être qu'on pourra essayer de savoir pourquoi. Et ensuite, Pascal et puis Natacha et Emmanuel interviendront sur le LAP. Voilà. Donc, première chose très rapide, l'autogestion pédagogique est une expression qui est récente. Vous avez bien entendu ce matin qu'on emploie ça depuis assez peu de temps. Avant, on parlait de pédagogie coopérative, de pédagogie collective, voire de pédagogie progressiste. Et c'est après 68 que, là aussi, dans le courant des sciences de l'éducation, va apparaître le terme d'autogestion. De fait, je ne l'ai pas dit en latin, hein, je n'ai pas dit de facto. De fait, il y a quelqu'un qui, dès 1876, comme quoi les choses sont extrêmement anciennes, qui s'appelle James Guillaume, qui a été un militant de la Première Internationale, qui mourra en 1916, mais qui a beaucoup travaillé sur le dictionnaire pédagogique qui a été publié en 1910, eh bien, va écrire un texte qui est tout à fait fondamental et qui, de mon point de vue, nous dit bien ce que, au moins dans sa tête à lui, était la coopération, l'autogestion, la gestion collective des moments éducatifs. Et donc, James Guillaume écrit, dans leur réunion, celle des apprenants, « Les enfants seront complètement libres. Ils organiseront eux-mêmes leurs jeux et leurs conférences. » Guillaume énonce bien le principe premier de l'autogestion pédagogique, à savoir celui de pouvoir décider collectivement de son activité. Et en d'autres termes, Albert Thierry le dira ultérieurement, Albert Thierry meurt en 1916 sur le front, eh bien, il dit qu'il faut mettre en place l'action directe pédagogique, qui est donc une autre façon de dire les choses. Et Guillaume continue, par rapport à ses élèves, il dit, ou il écrit plutôt, « Ils établiront un bureau pour diriger leurs travaux, des arbitres pour juger leurs différends. » Et là encore, on va retrouver un certain nombre de choses qui seront présents dans la pédagogie Freinet ou dans la pédagogie institutionnelle autour de Houry. Ça préfigure des soviets de classe, des conseils, et je suppose qu'au lycée de Saint-Nazaire et au lycée de Paris, il y a quelque chose qui ressemble à un conseil, à une réunion régulière entre élèves, éventuellement élèves et profs, profs et profs, et choses comme ça. Et donc, dès 1876, James Guillaume met le doigt là-dessus, sur la question du conseil, donc de la gestion collective, de la délibération collective, pour élaborer les règles dans l'espace éducatif. Et il ajoute, et c'est peut-être là la chose la plus importante, les enfants s'habitueront ainsi à la vie publique, à la responsabilité et à la mutualité. Et en effet, dans l'idée de Guillaume et de quelques autres, c'est pas tout de faire de l'autogestion pédagogique. On s'en contrefout d'une certaine manière. L'idée, c'est de dire, au travers l'autogestion pédagogique, on prépare l'autogestion agricole et l'autogestion industrielle ou l'autogestion tertiaire. C'est-à-dire, c'est une modalité d'éducation qui nous permet collectivement de décider ensemble, comme le modèle dominant que vous connaissez nous amène à ne pas décider ensemble et à nous soumettre à un ensemble de règles qui nous sont imposées par l'État, éventuellement dans d'autres lieux, par les religieux. Donc l'idée autour de Guillaume, c'est que l'école devienne un laboratoire social où se construisent, se débattent, se décident, se testent, éventuellement, comme l'a dit Philippe ce matin, voire se perfectionnent d'autres modalités de gestion et d'administration des sociétés humaines. Voilà. La pédagogie de l'autogestion est donc initiatrice et préfiguratrice de fonctionnements sociaux différents, ceux que nous construisons ensemble. Non plus ceux de la compétition, qui est bien connu dans le mode éducatif, mais ceux de l'émulation et de la coopération. Voilà. Par contre, quand on parle d'autogestion pédagogique, il faut bien prendre garde à ne pas déconnecter la pédagogie autogestionnaire d'un futur autogestionnaire. Il faut que vous sachiez que dans les plus grandes écoles des enfants les plus riches de Suisse on utilise la pédagogie autogestionnaire. Non pas pour qu'ils deviennent des autogestionnaires, mais qu'ils soient en capacité de définir les choses collectivement, de décider collectivement les modalités d'exploitation qu'ils mettront en place ultérieurement et qui vous concerneront directement. 3-4 citations pour vous donner d'autres éléments. Célestin Freinet, donc, a été l'un des moteurs de cette pédagogie coopérative. Il dit « Par la coopération scolaire, ce sont les enfants qui prennent en main effectivement l'organisation de l'activité, du travail et de la vie dans leurs écoles. C'est cela et cela seul qui importe. » Les militants de l'ICEM, c'est ce qui a c'est l'Institut coopératif de l'école moderne, donc le collectif de ceux qui se sont retrouvés avant de scissionner avec Freinet ou après l'avoir rejoint. Le collectif ICEM dit « L'autogestion pédagogique est un système d'éducation de style communautaire dans lequel les enseignés prennent en charge leur propre formation et la vie du groupe qu'ils constituent. C'est le groupe qui, après avoir expérimenté, décide des techniques, des formes de travail, du rythme, et qui élabore et applique son programme d'activité. Et il ajoute, qui institue ses lois et les règles de ses conflits. Hein, donc il y a aussi la dimension effectivement conflictuelle qu'on trouvera aussi chez un autre personnage intéressant autour des enfants juifs qui ont été déportés par la suite, la Korzak. Le Gall, qui a été un militant de l'ICEM, dit « L'organisation coopérative, à condition qu'elle ait une dimension de totalité dans la vie scolaire, mais éventuellement au-delà, est le moyen de favoriser une participation active et responsable des enfants dans tous les domaines, mais aussi un moyen efficace de formation humaine et citoyenne. » Donc là, il fait bien le lien entre la pratique éducative et les pratiques sociales ultérieures. Et j'en finis avec une quatrième définition, celle de Pierre Yvain, qui fait partie à peu près de la même bande. « L'autogestion pédagogique est une démarche formatrice, aussi éloigné du laisser-faire que de l'autoritarisme, puisqu'on va se donner des règles et qu'on va les respecter, quitte à les changer, et qui vise, par l'expérience du travail collectivement géré, à donner naissance à un homme nouveau qui construit sa liberté par l'apprentissage de la responsabilité, de la critique sociale et de l'autonomie. » Des gens, pendant la Commune de Paris, ne disaient pas forcément autre chose. L'homme nouveau, j'aime pas trop, mais c'est un vieux débat avec nos camarades de voisinage que sont les staliniens qui voulaient créer l'homme nouveau. Nous, on ne dit pas qu'il faut créer l'homme nouveau, il faut que l'homme nouveau se crée. Et la femme nouvelle, du même coup. Hein, donc, ce n'est pas l'école qui les crée, c'est eux qui se créent nouveau dans l'école. Pour conclure, ouais, j'ai pas été trop loin, pour moi, il existe 4 niveaux d'autogestion. Premier niveau d'autogestion, c'est celui qui renvoie à l'autodidaxie, où un individu, d'une certaine manière, s'auto-organise, autogère ses propres apprentissages. Deuxième niveau d'autogestion, c'est ce qu'on trouve très fréquemment dans les écoles de la République, c'est l'autogestion d'une classe entre les apprenants et le groupe d'élèves. Et ça ne sort pas forcément de la classe, voire les autres collègues ne sont pas du tout sur le mode autogestionnaire ou coopératif. Troisième niveau, c'est peut-être celui du LAP, probablement celui du niveau de Saint-Nazaire, c'est celui de l'autogestion de l'établissement par tous ses acteurs, donc aussi bien des classes, s'il en reste, que l'établissement lui-même, mais pas sur le plan économique, puisque c'est toujours l'État, en l'occurrence, qui maintient la rémunération des fonctionnaires ou pas qui y sont et qui paie le loyer des espaces. Voilà. Quatrième niveau, c'est celui vers lequel les anarchistes essaient de tendre, hein, qu'ont essayé de le faire à Bonaventure, qu'essaient de le faire à 2-3 endroits, et comme Sébastien Faure l'a fait à La Ruche. C'est le niveau de l'autogestion intégrale, aussi bien sur le plan économique que sur le plan pédagogique.
Je peux parler. Moi, je voulais. Donc, Nathalie, je suis membre de l'équipe éducative du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Et je voulais faire un petit point d'histoire et revenir sur les débuts du lycée. Donc, comme le disait Hugues, après 68, les militants pédagogiques autour de l'école émancipée du mouvement Freinet qui était présent sur Saint-Nazaire ont tenté, on leur a laissé une expérimentation sur 2 classes de seconde. Qui a été rapidement, qui s'est terminé rapidement, jusqu'à ce qu'en juin 81, Gabi Cohn-Pendit envoie une lettre au camarade ministre qui venait d'être nommé, Alain Savary, où il disait, bah, en gros, à l'école, il y a des profs qui s'ennuient, Il y a aussi des jeunes qui s'ennuient ou qui sont jetés du système. Ben, laissez-nous faire une école où on peut réunir ces personnes-là ensemble et faire autrement. Et Savary, Alain Savary le prend en mot. Et alors que l'équipe n'est pas encore constituée, et il y a cette rencontre entre Alain Savary, Gabi et André Daniel. Ce qui va amener donc le projet petit à petit. Alain Savary désigne un inspecteur de la formation continue, et ça c'est assez intéressant, GIFAR, pour piloter le projet. Donc l'équipe éducative commence à la future équipe éducative commence à se rencontrer. Et ce qui va accélérer le début du projet, c'est que suite à la lettre dans Libération, en fait, c'est des élèves qui commencent à débarquer. Et donc, il y a 35-40 élèves qui débarquent jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ça va amener une accélération du début du projet. Le lycée ouvre le 2 février 1982. Et la question du départ, c'était vraiment comment faire la liaison entre un fonctionnement politique autogestionnaire et un fonctionnement et une pédagogie aussi autogestionnaire. C'est-à-dire, on ne se partage pas seulement le pouvoir, mais on partage les savoirs et on essaie de s'approprier ensemble les savoirs. Et je vais laisser la parole à Koulmik qui va nous expliquer un peu comment fonctionne la gestion au lycée.
Donc, nous, au lycée, on n'a pas de classe. On fonctionne avec des groupes de base qui se relaient pour faire tourner le lycée, donc, c'est-à-dire le ménage, le secrétariat, la cuisine. Et ça dure une période de 2 semaines. Voilà. Donc je vais laisser Isaac parler du CE, tout ça.
Du coup, je vais vous parler des institutions. On en a deux, on a le CE et le collège. Et donc, en gros, le CE, il va choisir de répondre aux demandes, questions, problèmes, ou de les envoyer, du coup, à l'autre institution, au collège, du coup. Et le CE, il change toutes les vacances. Du coup, ça tourne constamment. Et les collèges, en fait, il y a deux collèges différents. Il y a le collège où il y a du coup les profs qui sont, du coup, on appelle ça les membres de l'équipe éducative, les MEU. Et du coup, il y a un collège avec les MEU et un collège avec les élèves pour pas que les MEU influencent la vie des élèves. Et du coup, une fois que l'avis des collèges a été envoyé au CE, le CE va prendre la décision en consensus, du coup. Et c'est... le CE, du coup, c'est le conseil d'établissement.
Voilà. Donc, moi, je m'appelle Solène et je vais vous parler de comment on apprend, entre guillemets. Donc, on a des activités qui sont tous les matins de 8h30 à 12h30 avec une pause à 10h, bien sûr. Et ces ateliers sont menés sur 2 semaines où on travaille sur un sujet régulier à chaque fois. Les sujets sont décidés en département avec des élèves et des MEU, ce qui fait que ce sont les élèves qui décident ce qu'ils veulent apprendre. C'est vraiment... c'est les élèves qui décident en communion avec les MEU. Donc après, ça passe en commission d'harmonisation pour organiser quand sera l'atelier, avec quel MEU, sur quel temps, etc. Et après, il y a la programmation où les élèves et les MEU, encore une fois, décident de ce qu'ils vont faire en atelier, de ce qui va se prévoir, s'il y a besoin d'un budget, s'il y a besoin de prévoir des choses, etc.
Donc moi c'est Louane, je vais vous parler de la co-évaluation. Au lycée expérimental, il faut savoir qu'il n'y a pas de notes. C'est-à-dire que on fonctionne avec des bilans qu'on fait à chaque fin d'atelier, fin de gestion et à certains moments de l'année. Et ça nous sert à expliquer qu'est-ce qu'on a appris, comment on l'a appris, ce qu'on voulait apprendre, est-ce qu'on a rempli nos objectifs. Et on a un groupe de suivi qu'on appelle groupe éco. C'est donc des petits groupes dans les groupes de base. Et ça nous sert à nous aider pour apprendre tous ensemble.
C'est le LAP maintenant ?
Alors pour le LAP, on va aussi revenir sur un point historique du moment de la création. C'est Manu qui va faire ça. Ensuite, Elliot et Natacha parleront d'un certain nombre de spécificités liées au fait que l'autogestion se pratique avec des personnes qui ont un statut différent, puisqu'il y a les enseignants qui sont salariés et les élèves qui ne le sont pas. Donc qu'est-ce que apporte et qu'est-ce que pose comme question cette spécificité
Excuse-moi Pascal, je t'interromps deux secondes, j'ai visiblement un problème avec ce micro-là.
Eh bien, je me décale.
Merci.
Bon, je ne vais pas refaire la présentation, puisque c'est... Et ensuite, on reviendra sur la question que posait Hugues, sur la question des niveaux et le fait d'être au troisième niveau, d'être avec un ministère qui n'est pas du tout autogestionnaire. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça pose aussi comme question? Voilà, la parole est à Manu.
Alors, moi, j'ai pas vraiment préparé mon intervention, contrairement à tous les gens qu'on est belles notes et tout ça. Moi, j'ai la particularité d'avoir été élève en... maintenant, je suis prof au lycée autogéré, mais j'étais élève en 82. Voilà, donc j'ai suivi l'histoire de ce point de vue-là aussi. Et pour mon début, bah, c'est un début d'élève. Donc moi, je vais témoigner d'un début d'élève et pas... Ah, ça va pas. Okay. Un début d'élève et pas un début trop institutionnel, même si moi, j'ai fait partie j'ai assisté aux réunions de préparation, parce qu'avant que le lycée ouvre... Alors, le lycée autogéré, il a ouvert en septembre 82, donc on est un petit peu après Saint-Nazaire. Mais avant, évidemment, il y a eu des réunions, une première AG à laquelle j'ai assisté. Voilà, moi, ce dont je peux témoigner, plutôt d'une réalisation utopique dans la réalité. C'est-à-dire que moi, j'avais jusque-là une... Oh, j'avais un... une scolarité plutôt normale, mais je souffrais beaucoup de l'absence justement de pouvoir donner mon avis, participer, etc. à ce que j'apprenais. Et quand voilà, j'ai appris l'ouverture du lycée autogéré et les principes de création, j'avais l'impression qu'on avait ouvert l'école dont je rêvais, même avec mes petits 17 ans. Voilà, donc et effectivement, assister à ce début d'expérience, c'était extrêmement riche. Et très bordélique, voilà, je peux le dire. Parce que souvent, on dit, qu'est-ce qui reste des débuts? Heureusement qu'il n'en reste pas tant que ça, parce que c'était quand même bien le bordel. Et que maintenant qu'on est beaucoup plus structuré, ben, je pense qu'il y a beaucoup plus de place pour plus de personnes. Et aussi, j'avais envie de dire une chose, c'est qu'avec des camarades qui étaient avec moi au lycée à ce moment-là, on se disait, à notre époque, c'était facile d'y rentrer, parce que voilà, le lycée autogéré correspondait à tout un mouvement militant qui était aussi dont mes parents faisaient partie. Mais par contre, c'était difficile d'en sortir. C'est-à-dire qu'on avait du mal à quitter le nid. En fait, comme moi, j'ai eu du mal, par exemple. Et puis que la preuve, c'est que j'y suis toujours. Et par contre, depuis plus récemment, moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile d'y rentrer. Parce que voilà, ça s'est élargi beaucoup, et tant mieux, à une population élève qui n'est pas une population qui est née dans l'autogestion et qui a grandi dans l'autogestion et qui est tombée dedans quand ils étaient petits. Et du coup, là, moi, je pense qu'on a un vrai rôle maintenant d'ouvrir cette possibilité à beaucoup plus de gens que c'était le cas en 82. On représentait quand même un petit groupe d'une centaine d'élèves et on était quand même d'un milieu plutôt proche de ce qui s'y passait. Je sais pas, moi je préfère répondre à des questions en fait. Donc je vais m'arrêter là et puis peut-être...
Les questions c'est après.
Ouais, je m'en doute, c'est pour ça que je dis que je m'arrête là et puis après, voilà.
Qui du lycée autogéré, là?
Moi, c'est Elliot.
Il faut que tu te rapproches du micro, Elliot, peut-être.
Alors, moi, c'est Elliot. Je voulais parler d'une des particularités qu'on a au lab, c'est le rapprochement avec les professeurs dans le fait qu'on les tutoie et on les appelle par leur prénom. par leur prénom. Alors le fait de tutoyer nos professeurs, pour moi, je pense que ça permet de briser le rapport de force qu'il y a entre les professeurs qu'on peut trouver dans le tradi, du fait qu'on peut se trouver plus à l'aise à leur poser certaines questions et à moins cette distance, pendant, par exemple pendant les cours, et aussi et un rapport entre les professeurs et les élèves dans le fait qu'on peut se communiquer des informations plus facilement sans grande culpabilité qu'on aurait dans le tradi. Par exemple, tout ce qui se passe par les absences et les systèmes de notation, si on veut en avoir, on en discute directement avec le professeur. On passe pas par de vie scolaire ou de surveillants qui vont passer le message et appeler nos parents pour prévenir le prof en mode « Oh là là, il est où votre enfant ?» Du coup, je trouve que le système de tutoiement au lab et du fait qu'on puisse avoir les numéros de nos professeurs, par exemple, pour leur parler, ça permet de faciliter le fait qu'il y ait plus ce rapport de force qu'on peut trouver dans le tradi. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement plus pratique. Par exemple, ça permet aussi qu'on peut communiquer plus facilement nos envies de projet. Par exemple, là, on voulait faire une intervention du lab pour le colloque. Donc, il y a Pascal qui a dit en groupe de base, donc il y a un groupe où on gère la gestion du lycée par petit comité de 15 groupes par... Il y a 12 groupes de 15. Bah parce qu'il a dit oui, qui veut participer au colloque avec moi pour parler au nom du LAP. Et du coup, on peut plus facilement, s'il y a des projets, à des ateliers, etc. Du coup, voilà.
Natacha ?
Moi, je suis Natacha du lycée autogéré de Paris et groupe d'Ivry de la Fédération anarchiste. Alors, du coup, je voulais parler de deux points... au LAP sur la provenance socioculturelle des élèves et puis sur les rapports qui se mettent en place entre profs et élèves par rapport au tradi où c'est bien plus hiérarchisé. Déjà premièrement pour la provenance socioculturelle, Elliot me faisait remarquer que c'était un lycée qui était désectorisé. Donc on ne prend pas, par rapport au lycée sectorisé, où on va avoir que la population d'un quartier, donc d'un lieu clos, les élèves peuvent venir de toute la France, et puis même ailleurs s'ils peuvent. C'est un aspect qui est assez positif pour faire venir une population assez variée au LAP, mais elle est tout de même entravée quand même par le fait que c'est un lycée parisien. Alors ce que je veux dire par que c'est un lycée parisien, c'est qu'il a de fait beaucoup plus de facilité à faire venir des gens qui habitent Paris, des gens à travers justement la sphère militante, parce que c'est quand même beaucoup nos approches par rapport au fait que des gens nous connaissent depuis les manifestations, dans les milieux de l'éducation, qui ont des parents militants qui vont venir, même si, au bout du compte, les élèves sont, n'en sont pas pour autant tous, quoi. Le fait que depuis quelque temps on parle beaucoup plus du LAP via Internet, ça a encore un aspect qui a élargi la provenance des élèves au LAP. Voilà, du coup, je reviens sur le fait que c'est un lycée de... sur la provenance des élèves. Au LAP, on peut voir que, vu que c'est un lycée gratuit aussi, vu qu'il fait partie du public comme un Saint-Nazaire, on a à peu près personne qui est au LAP aurait pu avoir les moyens de se payer un lycée privé. Donc c'est encore un aspect qui facilite la diversité au LAP. Oui, du coup, c'est un aspect qui facilite pas mal la venue d'élèves au LAP. mais on peut voir quand même on peut quand même faire le constat que les élèves sont généralement majoritairement de classe moyenne. Alors pour ça, j'y donnerai peut-être un peu l'explication que pour des élèves de classe populaire, par exemple là où j'étais avant d'atterrir au lab, j'étais dans une ZEP en banlieue. Alors être dans les milieux militants quand beaucoup des élèves de quartiers très pauvres sont issus de l'immigration, c'est assez compliqué. Bon, déjà quand on n'a pas de code du travail. Pour les parents qui ont envie quand même que leurs enfants puissent avoir, parce qu'un lycée où on passe pas de notes, où on n'a pas de diplôme, enfin, où comment dire, il est vu de l'extérieur comme étant un lycée, comment dire, qui peut remettre en question le bac, etc. C'est une démarche qui est plutôt compliquée pour des personnes. C'est une démarche plutôt compliquée pour ceux qui comment dire. Voilà, oui, voilà, du coup, qui aimeraient pour leurs enfants un petit peu d'ascension sociale, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais peut-être écourter sur ce point que j'ai à peu près fini. Bon, il y a aussi se donner les moyens matériels pour quand on est de la banlieue pouvoir venir au LAP. Pour pouvoir se déplacer, etc. Voilà. Alors, aussi, du coup, sur les... du coup, je passe à mon deuxième point, qui était sur les rapports entre profs et élèves. Alors, comme on peut voir, tu as parlé du tutoiement. C'est vrai qu'on tisse des liens quand même bien plus forts que... Enfin, assez forts avec les profs, vraiment par rapport aux traditionnels. Alors, on a un statut différent. Du coup, le lycée de Saint-Nazaire et l'autre ont deux manières de le voir, ce statut. Le lycée de Saint-Nazaire fait de la co-gestion. Donc, une gestion qui se fait... Alors, je vous laisserai peut-être expliquer, du coup. Qui se fait par deux assemblées, si j'ai bien compris. Une assemblée prof et une assemblée élève. Nous, on se réunit tous ensemble en groupe de base, c'est-à-dire en petit groupe de quoi, 15 personnes, 20 personnes, où on va gérer tous ensemble. Voilà. Donc par rapport à ça, généralement, on arrive à des rapports qui sont plutôt, je dirais, égalitaires, mais qu'il faut quand même nuancer par le fait que les profs, eux, restent au LAP durant... alors, c'est pas un CDI, je connais pas vraiment le statut, mais...
Si.
Oui, c'est ça, voilà.
Non, il y en a en CDI, non. Et les autres fonctionnaires...
Voilà, et nous qui allons justement y rester 3 ans. Donc, évidemment, ça va modifier le rapport, par exemple, à ce que quand autant que met par exemple un élève avant de pouvoir prendre l'assurance de parler en AG, de prendre part pleinement aux décisions, et celui d'un prof qui aura beaucoup plus l'habitude, notamment par rapport au tradi, il faut aussi donner les moyens pour les profs de se passer de l'autorité qui peuvent facilement obtenir par rapport à leur place dans la société, et pour les élèves justement de prendre cette assurance de prendre pleinement part aux décisions du lycée, quoi. Voilà.
Oui, alors sur... Voilà. Non, toujours pas.
Merci pour le micro. Le dernier point, donc, c'est pour revenir sur comment s'inscrit un lycée autogéré à la fois dans une société qu'il ne l'est pas du tout, et ça revient à la présentation de Hugues qui disait que un des principes, c'était de connecter justement cette pratique d'autogestion pédagogique à la visée autogestionnaire de la société et aux pratiques sociales. Évidemment, à la fois, on est très très peu nombreux puisqu'il y a 2 lycées en France publics qui fonctionnent sur ce mode égalitaire, donc on est trop peu nombreux pour pouvoir essaimer et avoir une pratique qui soit reprise derrière au niveau de la société. Ce qui n'empêche que ça reste une fin en soi, c'est-à-dire que être dans un lieu où on passe à la fois beaucoup d'années pour les profs, comme l'ont rappelé Manu et Natacha, et quelques années pour les élèves, mais surtout beaucoup d'heures par semaine, avoir un lieu qu'on peut s'approprier et que ça soit de manière non hiérarchique, de manière sans système de punition que la plupart d'entre nous ont connu dans le système classique, c'est une fin en soi parce que ça rend cette venue beaucoup plus agréable et ça donne un sens pour beaucoup aux aspirations qu'ils avaient en venant dans ce lieu. Mais évidemment, on est très peu nombreux et la société n'est pas tellement autogérée ça, actuellement, pour l'instant. On est aussi, comme l'a rappelé Hugues, au niveau 3 de l'autogestion, c'est-à-dire qu'on est rattaché, on dépend du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est assez exceptionnel quand on regarde au niveau européen. Il n'y a quasiment qu'en France où il y a eu cette possibilité, et malheureusement qu'en 82, puisque tous ceux qui ont essayé depuis se sont vus soit claquer la porte au nez. Enfin, la gestion au niveau de l'établissement, à chaque fois qu'il y a des projets qui sont présentés, la réponse du ministère, c'est plus question. Ça a été expérimenté en 82, mais on ne rouvrira pas ce genre de pratique. Et au niveau européen, il y a très très peu de pays qui ont permis cela, puisque le seul exemple, malheureusement, l'école a fermé, c'est en Belgique, avec Pédagogie Nomade. Toutes les autres structures sont des structures privées, donc avec les questions du financement que ça pose, et peut-être aussi la question de l'accès aux élèves quand il y a un besoin de participer financièrement pour rentrer dans l'école. Ce rattachement avec un ministère qui nous finance, ça a évidemment ce premier avantage, c'est-à-dire qu'on est financé. Et c'est vrai que même quand on parle avec des... Moi, j'avais parlé avec un certain nombre à Bonaventure qui, eux, étaient sur le financement complètement du milieu militant, disaient que s'ils avaient eu l'opportunité de pouvoir être financés par le ministère, ils la prendraient parce que c'est quand même une grosse difficulté souvent de trouver l'argent. Ça, c'est un mystère, c'est vrai qu'en contrepartie, on peut se demander quelles sont les libertés qu'on nous prive en étant financés. Alors, je vais te dire déjà une première chose sur le fait que dans le financement, il y a le salaire des profs. Voilà. Donc, c'est évidemment l'avantage que je disais, c'est que tous les mois, on est payé pour pouvoir le travail au lycée autogéré. La difficulté qu'on n'a jamais résolu à résoudre, c'est que dans pas mal de structures autogestionnaires, il y a la recherche d'une égalité salariale. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes aient le même revenu. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été possible dans les lycées autogérés. En tout cas, au LAB, ça a été un petit peu discuté et complètement pas abouti, puisque ça renvoie à d'autres questions sur comme l'argent et l'argent des salaires, ceux qui reviendraient avec un plus gros salaire, voilà. Donc ça malheureusement pas pu être abouti, mais comme je disais, chaque mois les profs sont payés. Ensuite, quels sont les problèmes de liberté que nous pose le ministère? Je dirais que dans une première partie de l'expérience, peut-être pour Saint-Nazaire et pour nous, ça a été relativement ouvert, c'est-à-dire qu'on nous a vraiment laissé carte blanche et la possibilité de fonctionner et de s'approprier le lieu avec la possibilité de décider d'absolument toutes nos règles de fonctionnement et de toutes nos activités sans qu'il y ait complètement d'entrave. C'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué, peut-être particulièrement pour le lycée XP qui depuis des années se voit bloqué, ils le repréciseront tout à l'heure, sur plein d'activités. Que ça soit à un moment c'était la cantine, enfin la restauration, le minibus, enfin voilà, plein de et aussi au LAP on rencontre un certain nombre de contraintes qui sont de plus en plus fréquentes. J'en prends une qu'on partage avec Saint-Nazaire. Les profs qui travaillent au lycée autogéré ou les MEU à l'IXP sont des profs qui sont volontaires, qui partagent le projet politique et pédagogique et qui ensuite sont cooptés par l'ensemble de l'équipe. Jusqu'à très récemment, la cooptation était, on établissait la liste des personnels qui travaillaient et c'était validé par les différents rectorats. Il y a 2 ans, on a eu un premier problème avec Nicolas qui est là dans la salle, puisque le rectorat de Créteil a refusé le détachement nécessaire pour qu'il puisse venir travailler à Paris. Là, cette année, c'est le lycée expérimental qui est lui aussi confronté à des refus de nomination des profs pour des diverses raisons non dites, puisque je crois qu'ils n'ont pas du tout de réponse. Voilà. Et comme ça, d'année en année, on a soit un discours qui est de dire bah, « c'est intéressant ce que vous faites, mais dans la pratique, un certain nombre de blocages pour dire bah, « telle activité, elle n'est pas possible parce qu'elle contredit tel règlement ou telle cooptation, elle n'est pas possible. Voilà. » Et à partir du moment où c'est de plus en plus nombreux, ça rend vraiment difficile la continuité de l'autogestion complète. Et ça demande à ce qu'on soit dans un rapport de force assez constant, assez permanent avec les rectorats, avec le ministère, même si le ministère, pour nous, il renvoie que tout se passe avec le rectorat. Donc il y a vraiment une grande partie de notre temps et de notre énergie qui est consacrée à revendiquer cette liberté et essayer de l'avoir au maximum pour pouvoir avoir des lieux qui sont complètement les nôtres et qu'on s'approprie entièrement, puisque c'est une des conditions nécessaires à la pratique de l'autogestion.
Voilà. Sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose, donc de Saint-Nazaire ou de Paris, sinon on peut passer aux questions qui, j'imagine, vont être nombreuses. Attends, pour l'instant. Attends, tu es sur Radio Libertaire, il faut que tu parles dans un micro. Obligatoire. Mais on va te le donner, le micro. T'inquiète.
Oui, je voudrais revenir sur la toute première intervention de Hugues, c'est ça ? On parle d'autogestion des enfants, des élèves, mais on ne parle pas d'âge ni de niveau. Je voudrais dire quand même que le lycée autogéré, le lycée de Saint-Nazaire, c'est tous les deux des lycées. On parle pas des collèges, de la primaire, de la maternelle. Et je trouve ça regrettable parce qu'en fait, quand on entre au lycée, on y vient avec tout un passif d'expériences plus ou moins positives de l'école. Et ça revient aussi à la question de comment on s'approprie le lycée. C'est-à-dire que il y aura toujours des inégalités dans les groupes de base, etc. Parce que même des profs entre eux, l'autogestion et le fait de débattre des sujets fait qu'on doit forcément prendre la parole et on n'est pas tous aussi à l'aise à la prise de parole de par le fait que on n'a pas trop d'enseignement sur ça, notamment au collège, en primaire, etc. Et plus largement, sur l'expérience de l'autogestion, on n'a pas non plus de progression. C'est-à-dire qu'au lycée autogéré, bon, bah, autogestion, mais au collège, il n'y a pas un petit peu de liberté, il n'y a rien. On passe de 0 à 100%. Et donc, ça peut être quelque chose qui est très difficile à adapter. Et je pense que c'est une réflexion à mener parce que beaucoup de gens qui ne sont pas, qui n'ont pas connu les expériences d'autogestion, en ont un peu peur de se dire, bah, je passe de 0 à 100, quoi. Voilà.
Oui, sachant que même s'il n'y a pas de, il y a d'autres espaces coopératifs au moins dans toutes les classes Freinet, voire dans les écoles Freinet. Dans le primaire, et éventuellement, même je crois que c'est sur Marseille ou La Ciotat, il y a un lycée, un collège-lycée Freinet. Donc il y a d'autres expériences intéressantes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas autogestionnaire, comme disait Simone, on le devient.
Moi, pareil, ce n'était pas une question, c'était plus pour nuancer un propos que Natacha, je crois, a dit par rapport aux classes sociales du LAP. En tout cas, je ne connais pas le cas du lycée XP, mais en tout cas, je sais qu'au LAP, justement, comme tu l'as dit, c'était un brassage parce que c'était pas un lycée de secteur. Je sais que, par exemple, moi, je viens de Bretagne, du fin fond de la ruralité, genre. Et du coup, ouais, c'est un peu un choc des cultures, parfois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se retrouvent de milieux sociaux extrêmement différents, en fait. Enfin, ici, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a une moyenne... Enfin, on est une moyenne de classe moyenne, mais il y a aussi des gens de classe moyenne supérieure, inférieure, des personnes qui sont en situation de précarité, ou alors, au contraire, qui sont... riche. Et du coup, c'est... Enfin, même si c'est pas la majorité, bah, y a vraiment un truc de... On est plein avec des opinions différentes. Je sais qu'il y en a aussi qui viennent au LAP, même pas pour... Enfin, c'est totalement OK aussi de venir au LAP pour autre chose que les opinions politiques. Mais il y en a qui voient vraiment ça comme un essai de dernière chance, de on supporte l'autogestion. Mais au moins, on aura notre bac en candidat libre. Enfin, je sais pas comment c'est. Du coup, il faut... Enfin, je pense que les propos sont un peu plus à nuancer. Et même, bah, du coup, quand enfin, vous parliez de 0 à 100, justement, je sais que ça fait vraiment ça, parce que bah, y en a qui viennent au LAP, du coup, qui sont pas du tout dans un milieu militant. Enfin, absolument pas, en fait. Ils ont parfois des parents qui sont pas du tout dans ça aussi. Et ils tombent sur une vidéo de Brut, sur une vidéo YouTube qui date d'il y a 15 ans, et qui, du coup, ils découvrent le LAP. Et ouais, ça fait un gros choc. Je pense que beaucoup de gens sont pas prêts à ça, parfois.
Vous voulez répondre, peut-être, les Lapiens ou les Nazériens? Non?
Après, j'aimerais prendre la
parole. Attends, il y a une prise de parole, là.
Bah, justement, moi, je trouve que c'est bien de s'adapter de 0 à 100, comme tu dis. Puis, de toute façon, faut être réaliste. Des lycées comme ça, il y en a deux en France. Deux. Donc, ça veut dire que cette expérience-là, que vous démarrez peut-être de 0 à 100, les autres ne l'ont pas. Ils sont toujours dans des lycées-prisons ailleurs, quoi. Moi, je travaille dans un collège et je fais de la pédagogie Freinet. Mes élèves se plaignent de l'inverse. Ils disent, avec moi, on fait un petit peu de conseil coopératif. Alors, ça n'est pas aussi poussé que les expériences que vous menez qui me font envie. Mais après, ils se retrouvent dans un lycée tradi et ils doivent... Mais ils partent avec ce qu'ils ont appris. C'est déjà ça. C'est ça que je voulais dire.
Donc, j'ai... Levez le doigt et je prends la parole avant vous. Je rejoins, c'est extrêmement compliqué, la question de l'autogestion. Je suis une ancienne du LAP. Je suis passée ici, donc je pense après Emmanuel, un peu après Emmanuel. Je venais du tradi et c'était pour moi le tradi une expérience douloureuse, on va le dire comme ça. Et pour autant, arriver au LAP, ça a aussi été une expérience compliquée. Sinon douloureuse. Parce que même si je suis arrivée ici avec un abord militant, même si je suis arrivée ici après avoir lu « Libres enfants » de Summerhill, et donc voilà, j'avais beaucoup d'espoir, l'autogestion est probablement une des choses les plus difficiles à vivre. Parce que ça engage, parce que ça implique... parce que ça vient chercher la responsabilité de chacun, ne serait-ce que la responsabilité vis-à-vis de soi. Mais si c'est une expérience difficile, j'ai l'habitude de dire que c'est une expérience, moi qui m'a sauvée, je le dis clairement comme ça, c'est une expérience qui m'a permis de me sortir d'une aliénation, c'est-à-dire de me réapproprier quelque chose de moi-même, quelque chose du rapport au monde. Parce que ce qu'on apprend ici, au LAP, et dans les expériences autogestionnaires, c'est de pouvoir être acteur de soi dans le monde, et donc de pouvoir être acteur du monde aussi. Mais c'est difficile. Ça reste difficile, et ça reste une acculturation, en fait. Voilà.
Oui, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y avait 19 projets qui étaient prêts à ouvrir en 82, sous l'égide d'Alain Savary. Alors, Alain Savary a dit, on en ouvre 4, on lui met en expérience 2 ans. Il va y avoir des gens qui vont regarder comment ça fonctionne, des évaluateurs, entre guillemets. Et après, on ouvrira les autres si on trouve ça intéressant. Mais manque de peau, Alain Savary... Il a été remplacé par Chevènement, et Chevènement, c'était plus du tout son projet. Hein. Donc, fini. Et ce qui est dommage, parce que avec 19 projets, on aurait peut-être réussi à se fédérer, à créer une force, et à peser un petit peu dans le dialogue pédagogique et politique. Alors, les collèges se sont ouverts, des collèges différents se sont ouverts. La majeure partie ont dû fermer suite à des attaques de l'administration. Alors, très clairement, on n'a quand même pas le vent en poupe. Enfin, nous, enfin, tu l'as dit, Hugues, les expériences autogérées sont vouées à disparaître dans un monde étatique. Voilà. Et puis moi, je trouve ça très intéressant que ça s'ouvre à des tas de gens, y compris nos militants. Je trouve ça vraiment très bien que des jeunes qui n'avaient pas forcément entendu parler d'autogestion ou d'anarchisme ou de quoi que ce soit, ou que c'est la dernière chance, et justement cette chance de rencontrer ce projet qui est très difficile, je suis entièrement d'accord avec toi, mais qui va pour beaucoup changer leur vie, en fait. Enfin, c'est les témoignages qu'on a.
Vous souhaitez, Natacha Babatin, un micro ?
Alors, c'est vrai ce que tu dis, et je voulais rebondir aussi sur le fait que évidemment, dans une société étatique, ça semble curieux de laisser vivre une école autogestionnaire. Mais mon point de vue sur la question, c'est que justement, on nous laisse vivre. Parce que la plupart des gens qui viennent ici sont justement en rupture scolaire pour la raison qu'ils ne supportaient pas l'autorité et qu'ils ne supportaient pas les hiérarchies. Du coup, l'État me serait complètement impossible de proposer une structure qui va complètement à son encontre. Alors, je pense qu'elle nous laisse justement vivre parce qu'elle ne saurait pas gérer quelque chose de pareil que de personnes en rupture scolaire à cause des hiérarchies.
D'autres interventions ? Question ? Voilà, donc le micro s'approche.
Hop. Merci beaucoup. Comment vous êtes, vous vous positionnez par rapport au problème actuel de difficulté de recrutement des enseignants, etc. Les fameux speed dating, etc. Comment est-ce que vous avez eu beaucoup des démissions ? Est-ce que vous avez rencontré ou non ou pas ? Enfin,
non,
voilà.
Nous,
de toute façon, ils ont toujours été speed. Hein.
Nous, le paradoxe cette année, c'est que nous recrutons nous-mêmes les personnes qui viennent dans notre équipe. On coopte les personnes, en fait. Et là, donc, nous, contrairement aux autres établissements, nous, on avait les professeurs, on les avait choisis. Le rectorat a refusé ces deux cooptations. Donc, voilà.
C'est-à-dire que vous n'avez pas de mal à recruter, contrairement à d'autres lieux ?
Oui, il y a quand même pas mal de candidatures parce que le fait de faire autrement attire aussi d'autres collègues qui sont soit fatigués du traditionnel, soit qui ont vraiment envie de faire autrement.
Vas-y, question ? Voilà, à toi.
Vous m'entendez ? Ouais. Du coup, moi, je suis un ancien élève et je voulais dire que même si sur le moment, je ne comprenais pas forcément ce que je vivais, dans les années qui ont suivi, ça m'a quand même ouvert et ça m'a permis de voir le monde différemment. Quand on est parisien, qu'on a toujours été dans le même quartier, etc., on ne rencontre pas trop de gens d'ailleurs. Et même si la première année, on ne comprend pas, même quand on s'en va, on ne comprend pas forcément, mais après, dans la vie de tous les jours, ça reste ancré, et voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
Tu partages ?
Du coup, merci.
Oui.
Quelqu'un d'autre, peut-être ? Oui. Donc toi, tu es du lycée XP de Saint-Nazaire. Vas-y, dis-nous ce qu'il en est.
Bonjour. Alors oui, justement, je viens du lycée expérimental de Saint-Nazaire et depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de témoignages que je trouve très intéressants qui situent le mal en tant que nouvel élève de venir dans un lycée comme ça et de passer justement à ce fameux 0 à 100. Au lycée expérimental, ce qui est très complexe et je pense ce qui peut créer un décrochage au départ de la scolarité et de cette aventure expérimentalienne, c'est la destruction totale de tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es gamin. C'est la destruction de ton rapport à l'autorité, à la hiérarchie, c'est la destruction même de recevoir. Au lycée expérimental, tu reçois pas simplement les cours, tu les construis. Tu construis tes cours avec tes professeurs, enfin avec nos meufs du coup. On est là,
on a de la matière, on a quelque chose pour faire. Et je pense que c'est un des plus beaux militantismes parce que, en fait, on est directement acteur de notre savoir, on est directement acteur du partage de ce savoir et c'est ce qui fait que c'est aussi compliqué. Ça demande une implication personnelle super élevée mais une fois qu'on a atteint ce savoir, une fois qu'on a réussi justement à le partager, à construire avec nos mœurs, enfin, moi, je trouve que c'est la plus belle des expériences, en vrai de vrai. Voilà, c'est tout.
Donc, la plus belle des expériences, quelqu'un peut intervenir derrière... Oui, derrière toi, Karine.
Oui, alors bonjour. Moi, je suis absolument... Je n'ai jamais été dans des structures éducatives autogérées. J'ai fait collège, lycée, puis maintenant fac classique, entre guillemets, ou traditionnel. En fait, moi, je me posais la question parce que là, du coup, ce que tu viens de dire me semble... très intéressant sur le fait de remettre en cause des acquis qu'on a pu avoir par une construction sociale, etc. Mais du coup, je me pose la question de qu'est-ce qu'il en est après ? C'est-à-dire quand des élèves de lycées expérimentaux ou autogérés se retrouvent, par exemple, dans des facs ou dans des écoles, etc., qui sont des écoles où les questions d'autogestion ne sont absolument plus d'actualité, quoi.
Voilà, peut-être une réaction là-bas, et puis on cessera ce débat une fois de plus pour une petite pause avant l'arrivée de nos compagnons iraniens.
Oui, donc moi j'étais au lycée autogéré l'année dernière, jusqu'à l'année dernière. Donc là, maintenant, je suis dans une école, pas une fac. Donc, je pense que c'est plus simple dans une école parce que les facs, c'est très gros et il n'y a vraiment pas du tout de place pour la discussion, en tout cas des retours que j'ai. Mais je trouve qu'il y a déjà une facilité à aller en cours, en fait, parce qu'on a déjà l'expérience d'une autonomie assez forte. Mais par contre, la difficulté qu'on a, c'est que comme disait le camarade précédent du lycée de Saint-Nazaire, c'est que les cours, on a tendance à les construire avec le ou les professeurs et que c'est pas le cas plus tard. Je trouve que ça enlève quelque chose et en fait, y a un peu un sentiment de régression, d'un cours moins abouti et où finalement on essaie un peu de rattraper avec les autres élèves à ce qu'on n'a pas compris ou ce qui n'est pas clair ou voilà. Et du coup on se retrouve souvent à discuter avec les autres élèves de l'école mais qu'est-ce que le prof fait pas bien, etc. Alors que au lycée on le fait directement avec le professeur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre qui a changé? Le temps. Comme le lycée autogéré, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. C'est positif et négatif en même temps. C'est-à-dire que, une fois que je suis passé à l'école, que j'ai fini le lycée, j'ai beaucoup plus de temps pour faire autre chose. C'est-à-dire que je vais en cours, puis l'après-midi, quand j'ai fini, je peux faire plein d'autres choses. Donc, en même temps, les cours sont moins bien, mais en même temps, on y passe moins de temps. Voilà.
Voilà, merci. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est 30 minutes de pause, là aussi, pour continuer à discuter éventuellement avec tous les acteurs de toutes les expériences qu'on vous a proposées. Et on se retrouve donc à 16h pour l'intervention de nos compagnons iraniens.